le magazine des Nations Unies.
Bonjour, MONUSCO, 18 officiers de l'unité correctionnelle de la mission décorée des médailles d'honneur des Nations Unies pour les services rendus dans le maintien de la paix en RDC. La chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a représenté à cette cérémonie la représentante spéciale, Madame Passion Sai, que vous suivrez également dans la rubrique décryptage en marge de la retraite de cette unité organisée à Kinshasa. Lutte contre les violences sexuelles, l'ONU salue le plan d'engagement des autorités congolaises. La patronne de la MONUSCO, Leila Serugui, s'en félicite et rassure quant à l'appui de la mission onusienne dans la mise en œuvre de ce plan. Enfin, des journalistes de Béni formés dans le traitement de l'information en période d'urgence sanitaire, comme celui qu'en ce moment où cette partie du pays fait face à la maladie à virus Ebola. Cette action du ministère de la Santé a bénéficié de l'appui de l'OMS, UNICEF et la MONUSCO. Ce sont là les principaux titres des informations de la semaine. Le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. L'unité pénitentiaire de la MONUSCO était en retraite du 13 au 16 novembre 2019 à Kinshasa, à la base de la mission Kingabwa, un cas ici à Kinshasa. En marge de cette activité, 18 officiers correctionnels de la mission ont été décorés au cours d'une cérémonie officielle présidée par la chef de l'unité, Patient Sai. C'était en présence du secrétaire général de la justice, représentant le gouvernement congolais. Les détails dans ce reportage d'Honoré Missinga Kalala.
Madame Elvige Kantou Tchanda, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous décerne la médaille d'honneur des Nations Unies.
Ils sont 18 au total, les officiers correctionnels de la mission, dont cette femme à avoir été décorée. Ils sont de différents pays, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Madagascar, Nigeria, Sénégal, Suède et Tunisie. La cérémonie se déroule au bataillon ghanéen de la base de la MONUSCO à Kingabwa. La chef de l'unité correctionnelle de la mission, Patient Sai, représente la représentante spéciale Leila Zerigui côté Nations Unies et le secrétaire général de la justice, Georges Nfulu Mabi, représente pour sa part le vice-premier ministre et ministre des tutelles, Célestin Tunda Wakasinda côté gouvernement. Quelques ambassadeurs des pays, dont les ressortissants sont à l'honneur, ont également répondu présents. Pour les messages, le premier à prendre la parole est le secrétaire général de la justice. Celui-ci loue la bonne collaboration entre la MONUSCO et la RDC, particulièrement avec le ministère de la justice.
Le ministère de la justice reconnaît à sa juste valeur l'appui substantiel que la MONUSCO apporte aux prisons de notre pays sur le plan de la formation du personnel pénitentiaire, la construction et la réhabilitation des infrastructures, le coaching des directeurs des prisons et l'accompagnement dans le processus de la réforme pénitentiaire.
Quant au mot de la chef de l'unité correctionnelle, il est destiné notamment aux récipiendaires que Patient Sai félicite et exhorte à davantage d'abnégation.
Chers récipiendaires, je tiens sincèrement à vous féliciter par la qualité du travail accompli, très souvent dans des conditions difficiles et périlleuses. Vous avez réussi en si peu de temps à donner le meilleur de vous, tout en espérant que cette décoration, qui est la marque de consécration de vos efforts, vous incite davantage à vous surpasser dans l'accomplissement de votre mission, car beaucoup de défis restent à être relevés en cette période de retraite progressive de la MONUSCO en République démocratique du Congo.
Quelques-uns de ces récipiendaires expriment aussi leurs sentiments.
Oui, sentiment de satisfaction pour un travail bien accompli. Je remercie les autorités congolaises et les autorités de la MONUSCO. Merci bien.
Sentiment de joie, joie immense. Je me sens honorée par la plus haute institution mondiale. C'est un privilège. Je me sens vraiment honorée. Merci. En fait, Cameroun-Congo, moi je sais que c'est un seul pays et il n'y a pas de différence. Donc pour moi, Cameroun-Congo, c'est la même culture, c'est une famille. Merci.
Ah, on ne peut que dire un sentiment de joie. D'égalité, nous ne pouvons que dire d'abord merci au Seigneur pour la santé. Du moins, vous voyez, cette médaille vient comme ça nous appuyer. Et puis, ça donne vraiment un encouragement à notre personne et du moins à la nation camerounaise. Et nous remercions vraiment Madame la chef de l'unité correctionnelle pour le travail, la confiance qu'elle nous a faite. En nous nommant d'ailleurs team leader, chef d'équipe dans différents domaines. Moi, je suis Bazir Akalimi, Georges Pepin.
Par ailleurs, tous ces récipiendaires prenaient part à la retraite de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO qui s'était née du 13 au 16 novembre 2019 dans le même cadre de la base de Kingabwa.
Madame Patience Saï reviendra dans quelques minutes dans une interview accordée en marge de cette retraite. Ce sera dans la rubrique décryptage. Lutte contre les violences sexuelles en RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières a signé le 5 novembre 2019 le plan d'action de la police nationale congolaise, PNC, de lutter contre ce fléau. Un geste que les Nations Unies ont salué en début de semaine. D'autres précisions avec vous, Honoré Missinga Kalala.
Le plan d'action pour lutter contre les violences sexuelles du gouvernement congolais est le fruit des consultations avec les autorités de ce pays et d'un plaidoyer soutenu de la part de la MONUSCO. Pour les Nations Unies, ce plan constitue une avancée significative dans cette lutte ainsi que la réaffirmation des engagements pris par le président Tshisekedi et le nouveau gouvernement à la fois de prévenir ce fléau et de s'y attaquer. La représentante spéciale, Leila Zerigui, s'est félicitée de la signature du plan d'action. Elle a assuré que la MONUSCO apporterait son soutien au secrétariat de la commission installée afin d'en superviser la mise en œuvre. La signature du plan d'action est particulièrement importante au moment où la MONUSCO encourage les partenaires de la RDC à soutenir la professionnalisation des forces de sécurité, a déclaré à cet effet la représentante spéciale du secrétaire général. Autre satisfaction enregistrée au sein de l'ONU, c'est celle de la représentante spéciale du secrétaire général en charge de la question des violences sexuelles en conflit. Pramila Patten. Je félicite le président Tshisekedi et le nouveau gouvernement pour continuer à faire de la lutte contre la violence sexuelle une priorité et de la considérer comme un pilier essentiel dans leur stratégie visant à instaurer la stabilité et la paix dans les régions du pays touchées par les conflits, tel que décrit dans le communiqué conjoint signé entre les Nations Unies et le gouvernement en 2013, a notamment souligné Pramila Patten. L'objectif du plan d'action est de mettre un terme aux violences sexuelles commises par les agents de la PNC, mais aussi de contribuer à la prévention de ces violences et à leur réponse en RDC, notamment dans le cadre de la lutte contre l'impunité et de la protection des victimes et des témoins.
25 journalistes de Beni ont suivi pendant 3 jours une formation sur leur rôle et leur responsabilité dans le traitement des informations en période d'urgence sanitaire, comme celle de la maladie à virus Ebola. La MONUSCO et 2 agences des Nations Unies, l'OMS et l'UNICEF, y ont été impliqués. Mustapha Mulonda, responsable local de l'Union de la presse du Congo, UNPC, lui-même bénéficiaire de cette formation, s'était exprimé le jour du lancement, mardi 12 novembre. C'était au micro de Papi Martial Moukeba.
25 journalistes de Béniville et territoires sont formés pour l'instant à Béni sur les enjeux sanitaires ainsi que la responsabilité et rôle des journalistes en période de risque sanitaire. Et c'est un prélude de prévention de la maladie à virus Ebola que le ministère de la Santé ainsi que ses partenaires en l'Estar, l'OMS, l'UNICEF ainsi que la MONUSCO que nous sommes réunis et nous sommes outillés pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons mettre fin à cette maladie qui apparemment était en train de finir mais qui revient et voir la grande responsabilité ainsi que le pouvoir de la presse. Le partenaire s'est dit qu'il faudrait que nous puissions être outillés encore une fois, avoir des stratégies adéquates pour voir si cette maladie ne peut pas être éradiquée complètement.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme annoncé, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire était en retraite à Kinshasa du 13 au 16 novembre. La chef de cette entité de la MONUSCO, Patience Saï, a évoqué les objectifs de la retraite, également la mission dévolue à l'unité pénitentiaire et des résultats déjà enregistrés. Suivez plutôt l'entretien de Madame Patience Saï qui répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Madame Patience Saï, bonjour.
Oui, bonjour.
L'unité pénitentiaire de la MONUSCO est en retraite. C'est pour quoi faire?
Bon, l'objectif de la retraite, c'est de pouvoir retirer, évaluer ce que nous sommes en train de faire et avec le nouveau mandat, essayer de planifier, faire des stratégies pour aller de l'avant.
Alors, qui prend part à cette retraite?
La retraite, c'est purement pour les pénitentiaires. Et donc, le premier jour a été confié aux experts du terrain, experts pénitentiaires du terrain de la MONUSCO. Mais en plus de ça, aujourd'hui, on aura les autorités nationales, donc l'administration pénitentiaire, militaire et civile, qui va nous accompagner à évaluer nos appuis et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut retirer. Donc c'est aujourd'hui, mais en plus, on a CICR. On a aussi la direction de l'EG, du ministère de la Justice, on sait qu'ils s'occupent des enfants en conflit avec la loi. Et en même temps, on aura une participation de FAO, mais également d'autres partenaires comme UNDP.
Vous parlez de la FAO, de l'OMS, CICR, donc il y a un partenariat avec toutes ces organisations.
Oui, j'ai oublié même de mentionner le composant de la MONUSCO également, parce qu'il y a UNPO, il y a Droits de l'Homme, PCNDH, il y aura également section staff counseling, il y a aussi conduct and discipline, donc beaucoup de composants quand même, gender également. Donc oui, il y a par rapport à l'équipe pays, donc FAO, UNCT et tout ça, nous avons des partenariats avec eux. Il y en a qu'on a déjà comme le PNUD. FAO, nous sommes en train de tisser. Il y a des actions qui se font sur le terrain d'une manière ad hoc, mais on essaie de faire ça d'une manière cohérente au niveau national et puis que ça se réplique dans les provinces. Donc vraiment, il y a des partenariats comme nous. On veut renforcer davantage.
C'est que l'unité pénitentiaire a une dimension aussi humanitaire quand vous êtes en partenariat avec toutes ces agences.
Oui, bien sûr, parce que nous sommes en train de gérer des êtres humains, des détenus qui ont leurs droits. Il y a des fois qui sont bafoués parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Donc en partenariat avec ces agences, on arrive quand même à trouver des solutions à quelques problèmes qui existent. Par exemple, la gestion des femmes. Ce qui implique également nos femmes et aussi UNFPA. Il y a également le problème des nourrissons accompagnant les mamans. Mais en plus de ça, il y a les conditions générales de vie de la détention. Et donc tout ça aussi, cet aspect de décès lié aux malnutrition et tout ça. Donc on a un partenariat avec FAO pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut mettre sur place, accompagner les autorités nationales à mettre sur place un programme d'alimentation sécuritaire.
Madame, au sein de la MONUSCO, il y a beaucoup de sections, beaucoup d'unités, notamment UNPOL, il y a la force. Alors, quel est le rôle de l'unité pénitentiaire au sein de cette mission?
L'unité pénitentiaire a un mandat dans l'enceinte même du mandat de la MONUSCO, c'est appuyer l'administration pénitentiaire congolaise à pouvoir gérer les prisons d'une manière que ça conforme aux standards internationaux et nationaux.
Donc, vous êtes très très souvent dans les prisons congolaises?
Nous sommes tout le temps dans les prisons. Je dirais que nous avons une équipe dans chaque bureau, donc des régions où la MONUSCO a une présence. Et nous sommes ensemble au quotidien, tout le temps avec les directeurs de ces prisons. Il y a 12 prisons que nous sommes en train d'appuyer, donc les prisons centrales, y compris la prison de Makala, Ndolo et Luzumu. Donc nous sommes là, nous les accompagnons quotidiennement sur la gestion des établissements pénitentiaires, comment améliorer les conditions de vie. Mais en plus de ça, il y a l'équipe de Kinshasa qui s'occupe également de l'aspect de la réforme, donc pour renforcer quand même davantage les institutions en ce qui nous concerne. Donc il y a une approche stratégique mais également opérationnelle, et tout en assurant la protection des civils et la lutte contre l'humanité.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des résultats par rapport à votre appui?
Ça se sent partout. L'impact est là. Je prends un exemple des évasions qu'on avait eu à un moment donné répétitives. Maintenant, on n'entend même pas des évasions ou bien des évasions en masse, disons. Et il y a des petites évasions, un ou deux, ça c'est normal, ça se trouve même en Europe et des pays même développés. Donc ça c'est normal, c'est une vie carcérale. Mais d'une manière que ça a été avant avec des violences, avec des décès, avec des morts d'hommes, ça n'existe plus. Et également, on a quand même une bonne collaboration avec les autorités nationales, d'une manière que ça avance, vraiment ça avance. Mais il y a toujours des pas quand même à franchir pour quand même stabiliser les choses, que ça soit pérennisé.
Il y a des pas à franchir. Alors, quels sont les défis que l'unité pénitentiaire rencontre dans son mandat?
Je pense qu'il y a plusieurs défis. Et il y avait à un moment donné, c'était un problème des infrastructures, mais ça a quand même amélioré. Donc, ça fait l'un des progrès que nous avons vu. Il y a également les séparations de détenus, donc femmes, hommes, enfants, mineurs et adultes. Ça aussi, c'est comme si dans le 12, on a quand même arrivé à faire quelque chose. Mais en plus de ça, il y a un problème toujours criant de budget, ce qui fait qu'on a un problème de taux de malnutrition quand même élevé. Et parfois aussi, ça résoudre aussi le problème de décès dans les prisons. Donc ça, c'est un problème majeur, c'est lié au budget. Donc il y a un problème de budget que l'État doit quand même être en mesure de trouver des solutions. Mais il y a également, ce que nous faisons, c'est comme si d'une manière ponctuelle, on veut quand même au niveau institutionnel que l'État prenne la relève ou bien le devant par rapport à la réforme pénitentiaire. C'est quelque chose qu'on avait travaillé avec depuis 2006 et jusque là, on sent quand même que c'est un peu lent. Mais avec le nouveau ministre, on a quand même, on sent le momentum, on pense que on croise le bois en espérant que ça va aller. Donc on est optimistique.
Alors par rapport à tout ça, vous avez un message?
Non, mais ça c'est juste pour féliciter les autorités pénitentiaires ou bien les autorités même du pays, le gouvernement, d'avoir quand même fait beaucoup de choses. Par exemple, l'amélioration des infrastructures de Makala, c'est une bonne chose. Je vois également qu'il y a les détenus qu'on est en train de libérer parce qu'ils ont traîné dans les... ils n'ont pas de dossiers appropriés. Tout ça, ça c'est aussi de bonnes choses. On les félicite également. Je vois une amélioration quand même au niveau du budget parce qu'à un moment donné, c'était peu de prisons qui bénéficient du mini-budget. Maintenant, ça a augmenté. Mais on les encourage en même temps de continuer avec ces actions et de voir dans quelle manière, puisqu'avec la retraite progressive de la MONUSCO, comment ils peuvent pérenniser les choses quand demain on sera plus là, que le système pénitentiaire peut marcher.
Madame Patience Aï, merci.
Merci beaucoup.
En plus bref, des armes et des munitions récupérées par les casques bleus auprès des groupes armés remises au chef de bureau de la MONUSCO Kalemi dans la province du Tanganyika. La cérémonie a eu lieu mardi 12 novembre 2019 à la base du bataillon indonésien situé à l'aéroport de Kainda. C'est le contingent indonésien qui a procédé à cette remise. L'arsenal remis comprenait un mortier de 60 mm, une mitrailleuse automatique, 39 fusils AK-47, 2 fusils de chasse calibre 12, 5 bombes, 39 chargeurs et une grenade. Il comprenait également les armes traditionnelles telles que des arcs et des flèches. Le chef de bureau de la MONUSCO qui a réceptionné cet arsenal l'a remis à son tour à la section DDR de la mission. De Kalemi, rendons-nous à Uvira au Sud-Kivu. Les travaux de réhabilitation de la route frontière de Kavimvira par la MONUSCO se poursuivent, mais butent à de nombreuses difficultés. Exécutés depuis 2 mois sur 7 km par le contingent des ingénieurs chinois, ces travaux sont perturbés notamment par l'envahissement des enfants dans les périmètres du chantier, les plus répétitifs et la qualité de latérite non adaptée. Ce que déplore le chef de section d'ingénierie de la MONUSCO, Anani Kossi. La route de Kavimvira est une voie principale reliant la ville d'Uvira au Sud-Kivu à celle de Bujumbura, la capitale burundaise. C'est une route très sollicitée au quotidien. Enfin, dans l'autre Kivu, le Nord cette fois-ci, nous allons parler de la signature d'un protocole d'accord entre les coordonnateurs des Nations Unies pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola, David Kwesi, et le représentant du consortium de 3 organisations féminines de Butembo. La signature de cet accord de 49 775 dollars américains a eu lieu mercredi 13 novembre. L'objectif est de contribuer à la prévention de la maladie à virus Ebola, ainsi que d'assurer un accompagnement psychosocial et économique des jeunes et des femmes victimes de diverses violations de droits humains dans cette zone de santé des territoires de Beni et Lubero, ainsi que de la ville de Butembo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le BAC-UN vous propose comme invité Dr. Senen Ukton, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en RDC. Il parle des progrès réalisés et des défis à relever 25 ans après l'élaboration de l'agenda du CAIR sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles. Il évoque aussi l'apport de son agence sur la réalisation prochaine du 2e recensement général de la population en République démocratique du Congo. Suivez plutôt l'entretien que le représentant de l'UNFPA a accordé à Jody Daniel Kachama, notre envoyé spécial à Nairobi, qu'il a rencontré sur place en marge de la conférence internationale sur la population et le développement.
Docteur Senen, vous participez ici à Nairobi à la 25e conférence internationale sur la population et le développement. 25 ans après l'engagement, le plan d'action du CARE, quelles sont les avancées qui ont été enregistrées par rapport à la santé sexuelle et reproductive?
Il y a eu de grandes avancées au niveau mondial et particulièrement en RDC aussi. Au niveau mondial, nous avons déjà réduit de moitié les décès maternels. C'est très important. Au niveau mondial aussi, nous sommes en train de lutter très efficacement pour l'élimination, par exemple, des mutilations génitales féminines, pour l'élimination des mariages précoces. Pour ce qui nous concerne, nous, en RDC, nous avons fait beaucoup de progrès aussi. Rien qu'en 2017, le taux de mortalité maternelle a chuté de plus de moitié comparé à il y a une vingtaine d'années. Nous sommes maintenant à 473 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais bien entendu, il y a encore des défis. Vous savez, pour réduire le décès maternel, nous avons besoin des sages-femmes. Nous avons besoin de cette catégorie socio-professionnelle qui accompagne l'accouchement et qui accompagne les mamans lorsqu'elles accouchent. Aujourd'hui, en RDC, nous avons une sage-femme pour 16 000 habitants. Les normes de l'OMS recommandent que nous ayons une sage-femme pour 5 000. Mais je voudrais surtout insister sur l'élément important de la chef de délégation de la RDC, qui est le deuxième recensement général de la population de la RDC. Ça fait 35 ans que nous avons fait un recensement scientifique en RDC et nous sommes dans le processus. La chef de délégation, la vice-première ministre, ministre du plan, a d'ailleurs convoqué déjà une réunion avec des partenaires techniques et financiers dans quelques semaines et nous allons faire le point et nous allons avoir un plan clair pour comment aller vers ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Un autre thème important, c'est les violences faites aux femmes. Et là-dessus, je peux vous dire qu'en RDC aussi, nous avons fait beaucoup de progrès, mais les défis demeurent.
Cette rencontre de Nairobi du 12 au 14 a pour but de mobiliser l'engagement politique, la volonté politique et les moyens financiers. Pensez-vous qu'en RDC, d'ici 2030, on pourra accélérer et réaliser le plan d'action du CARE?
Ce que nous avons écouté aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture doit faire plaisir à tout le monde. Nous avons vu un engagement très fort des partenaires techniques et financiers, notamment par exemple du Danemark, qui a indiqué plus de 15 millions additionnels de dollars américains au Fonds des Nations Unies pour la population, mais aussi à d'autres organisations qui luttent pour l'autonomisation des femmes. Mais nous avons surtout écouté nos leaders. Nous avons écouté le président de l'Ouganda, le président de Kenya qui nous abrite, nous avons écouté le président de Seychelles, nous avons écouté des hommes d'État qui ont clairement montré leur engagement pour que nous puissions améliorer le capital humain de la jeune fille. Je reviens encore une fois sur la RDC. Quand vous écoutez la déclaration de la RDC, il y a de quoi avoir de l'espoir.
Nous avons noté une forte présence des jeunes congolais à cette conférence. Qu'est-ce qui explique cela?
Vous savez, l'agenda du CARE, 25 ans après le CARE, c'est essentiellement pour la jeunesse. D'abord, démographiquement, les jeunes font déjà près de 60% de la population mondiale. Mais lorsque nous regardons les questions dont nous discutons, la santé sexuelle et reproductive, ça concerne encore et surtout cette couche démographique. Donc nous ne pouvons pas discuter de ces questions sans les jeunes. C'est pourquoi la RDC est venue d'abord avec une forte délégation de jeunes, parce que nous ne pouvons pas faire leur futur sans cette jeunesse. Et je profite d'ailleurs pour remercier la délégation de la RDC, qui d'ailleurs a eu un prix mondial que nous allons célébrer avec eux, Afriane, pour leur engagement et leur contribution à améliorer la santé sexuelle et reproductive, mais aussi le capital humain de la jeune fille.
Pour terminer, quels sont les défis spécifiques qu'il reste à adresser dans le pays pour atteindre les objectifs du plan d'action du CARE?
Les défis, essentiellement, nous pouvons les résumer. Vous savez, pour nous, au Fonds des Nations Unies pour la population, nous disons que nous devons atteindre zéro décès de femmes qui vont accoucher. Nos mamans ne doivent pas perdre la vie en allant donner la vie. Et pour ça, il faut investir dans le système de santé et investir dans la profession sage-femme. Deuxièmement, nous avons dit que toute grossesse doit être désirée. La grossesse ne doit pas être un phénomène de hasard. Ça doit être une question de choix. Les individus, les couples doivent pouvoir décider combien d'enfants ils veulent avoir, quand ils veulent les avoir et à quel rythme. Et donc pour nous, nous devons investir beaucoup dans la planification familiale, pas seulement d'ailleurs comme un investissement pour la santé, mais un investissement pour réduire la pauvreté et impulser le développement. Troisièmement, nous ne voudrons pas qu'il y ait des violences faites aux femmes. Nous allons continuer les efforts pour qu'il n'y ait plus de femmes qui subissent des violences faites aux femmes.
Docteur Senen Unton, merci.
Mmh. La nouvelle de province nous emmène au Sud Kivu avec ce constat fait par une mission conjointe au Tchad, PAM, HCR, MONUSCO sur la situation humanitaire dans les hauts plateaux de Minembwe. Des précisions avec Fiston Goma.
La délégation a échangé avec les déplacés au bureau de la commune rurale de Minembwe. Elle affirme que depuis le début de la crise, une distribution de vivres a été effectuée à 3 reprises dans la région. Mais du côté des déplacés, ceux venus de Kamombo disent n'avoir pas été servis. Ils sont près de 1500 qui sont logés dans des familles d'accueil à Minembwe Centre et qui crèvent de faim. Leur porte-parole, Mourana Sekaruba.
Nous manquons des soins médicaux, nous manquons quoi manger, nous manquons l'endroit de dormir, nous n'avons rien, même les objets, même les habits. On n'a pas été assisté ni quelqu'un.
La délégation humanitaire explique qu'elle ne pourrait pas répondre à tous les besoins de se déplacer. Pour l'instant, tous les efforts sont focalisés sur la revérification des chiffres des personnes déplacées et l'accélération des travaux des routes sur les points critiques. Ces points critiques s'étendent sur 65 km entre Mulima et Abala, entre Point Zéro et Mikenge et de Mikenge à Madegou. Suite à la dégradation très avancée de cette route, un camion s'était renversé la semaine dernière et d'autres véhicules font 2 semaines avant d'atteindre Minembwe Centre. Une fois cette route réhabilitée, les convois humanitaires devront être escortés par l'armée et la MONUSCO. Par ailleurs, les humanitaires disent avoir observé aucun élan de retour des personnes déplacées vers leur village d'origine. Ils envisagent à cet effet mettre en place d'autres moyens de subsistance dont la sécurité alimentaire pour se déplacer. D'Ouvira Fiston Goma Mayaba, la radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Une question a été posée sur les préalables de Ngoudjolo, chef de la milice Codeco, pour déposer les armes. C'était au cours de la conférence du presse des Nations Unies de mercredi dernier. Suivez cette question, ainsi que la réponse de François Grignon, représentant spécial adjoint AI pour la protection et les opérations de la MONUSCO.
Je suis Charlie Omba de la radio-télévision Salama Bounia. Madame Florence, au mois d'octobre dernier, Ngoudjolo, chef de la milice Codeco, avait mis le vœu de quitter la Brousse moyennant certains préalables, notamment sa prise en charge. Quel est le point de vue de la MONUSCO à ce sujet?
Je vous renvoie sur Goma où nous avons les spécialistes des opérations.
Des crimes ont été commis dans le territoire de Djougou, des crimes atroces. Des enfants ont été éventrés. On ne peut pas aller dans un processus sans mettre sur la table le besoin de justice et le besoin de réconciliation. Donc nous sommes dans une situation où, à l'heure actuelle, les autorités provinciales et nationales, les FARDC, ont engagé, je dirais, pas simplement des opérations, mais aussi un dialogue avec les communautés du territoire de Djougou pour restaurer l'autorité de l'État dans la zone. Ce processus est en cours. Ce processus a permis, comme je l'ai mentionné, d'apaiser la situation. Ce processus devra aussi tenir compte des violences qui ont été commises. On ne peut pas cautionner une situation où vous commettez de telles atrocités et puis, quelque part, vous prenez la population en otage pour ensuite réclamer votre impunité. Donc, je dirais que c'est un processus qui doit aller de l'avant, vers le désarmement de tous les groupes armés actuels dans le territoire de Djougou, mais qui doit aussi passer par une restauration de l'autorité de l'État et, comme nous l'avons dit, un État de droit.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois dates à retenir pour la semaine qui commence: le 19 novembre, journée mondiale des toilettes, le 20 novembre, journée mondiale des droits de l'enfant et le 21 novembre, journée internationale de la télévision. Poïdor Basunga était à la technique, moi c'est Babel Congo Massimango, j'étais à la présentation. La coordination, le reportage et la réalisation étaient assurés par Honoré Missinga Kalala. À toute l'équipe, vous remercie d'avoir suivi ce magazine. Excellente suite de programme de Radio Capi, la fréquence de la paix.